présente notre conférencier d'aujourd'hui. Il s'agit de Philippe Lemoine, qui est né en 1949. Il est, au départ, c'est un chercheur. Il est ingénieur de l'Institut national de recherche en informatique et automatique, de l'INRIA, donc. Il a occupé ensuite divers postes dans la recherche et la gestion de la recherche informatique. Il a été chef adjoint de la mission informatique au ministère de l'Industrie, par exemple, de 1976 à 1980. C'était il y a bien longtemps, mais en même temps, c'était très précurseur. Il a été ensuite conseiller auprès de ministres des techniques ou chargé des conditions auprès dans le cabinet de M. Segar, étude des conditions d'adaptation aux conséquences d'utilisation des techniques avancées, donc mission de recherche et de développement technologique. Il a été enseignant à l'Institut d'études politiques. Il est actuellement président directeur général de l'ASER, qui est Lafayette Service, la branche recherche des Galeries Lafayette. Alors, Monsieur Lemoine me fait passer un papier sur le sujet, c'est qu'est-ce que la nouvelle économie, bien sûr, je pense que c'est une reformulation sur nouvelle économie et nouveau visage du commerce et de la production industrielle. Voilà, je termine par ces publications. J'ai été perturbé, excusez-moi, je termine par ces publications, mais c'est important parce que vous les demandez souvent. Donc, pour les anciennes collaborations au livre Les dégâts du progrès en 78, 1981, Le tertiaire éclaté en collection, 81, Enjeux culturels de l'informatisation, 93, Le commerce dans la société informatisée. Et enfin, 98, Internet, Self-Service mondial ou nouvelle économie de service. Voilà, donc je lui passe la parole pour une cinquantaine de minutes sur qu'est-ce que la nouvelle économie. Merci.
Bien, bonjour. Excusez-moi de cette petite intervention. Dans les milieux financiers qui s'intéressent à Internet, il existe une notion à laquelle on se réfère pour apprécier la valeur d'une entreprise, le cash burning, c'est-à-dire la vitesse avec laquelle une entreprise a brûlé le cash, les liquidités qu'elle a levées. Le fait même que l'on puisse utiliser sans distance une telle notion témoigne d'un sentiment d'accélération, de rapidité, un peu d'insignifiance. Une année Internet, dit-on souvent, durerait un trimestre, 3 mois du temps classique. Tout défile à un tel rythme que l'on peut se demander s'il n'y a pas également un concept burning, une vitesse avec laquelle la société brûlerait les concepts qu'elle a mis en avant. L'expression de nouvelle économie est menacée de ses flammes. Elle est aujourd'hui sous les feux de l'actualité, mais tout se consume à grande vitesse. Un jour, la nouvelle économie va bien, le lendemain, la nouvelle économie descend aux enfers. Va-t-elle s'affirmer ou va-t-elle disparaître ? Pour répondre à cette question, il faudrait savoir ce qu'est la nouvelle économie. Est-ce seulement une expression gadget qui scintille pour quelques mois dans les médias ? Mais dans ce cas, on s'étonne que la notion ait émergé dans des débats qui est mobilisé parmi les plus grands économistes américains. Est-ce alors un concept scientifique désignant clairement un nouvel horizon du monde ? Je pense qu'un manque assez perceptible de rigueur dans les termes mêmes, le choix de tailler large suggère plutôt qu'il s'agit d'une notion en devenir. Qu'est-ce donc que la nouvelle économie ? Le groupe Laser, dont on parlait tout à l'heure, va prochainement publier un cahier de réflexion en français qui présentera les principaux textes qui ont jalonné et structuré les interrogations sur la nouvelle économie. En prenant appui sur ce travail, je voudrais développer ici 3 points. Montrer d'abord qu'il s'agit d'un débat important, rendre compte ensuite des 3 paradoxes autour desquels il s'organise, proposer enfin un cadre d'analyse plus personnel sur ce qu'il y a de nouveau dans cette nouvelle économie. Un débat important tout d'abord. Une question théorique sous-jacente aux interrogations sur la nouvelle économie, c'est la fameuse question des relations entre la technologie d'une part, l'économie et la société d'autre part. Depuis près de 2 siècles, il s'agit bien sûr d'un point sensible, difficile à analyser, sur lequel s'accrochent des controverses fondamentales sur le déterminisme, le rôle des hommes, la conception de l'histoire. Malgré de nombreux travaux, la question n'a fait que se complexifier. Deux évolutions contemporaines viennent intensifier la difficulté de l'analyse. L'évolution, d'abord, de la nature même des technologies. Les technologies d'information n'ont pas le même mode de relation avec leur environnement que les technologies mécaniques d'hier. Elles traitent des informations, elles sont programmables, elles favorisent l'interactivité. Il est clair que tout ceci soulève de nouveaux enjeux et suppose des cadres d'analyse bien différents des schémas qui étaient fondés sur les schémas déterministes mécaniques classiques. L'autre évolution concerne les domaines de la vie économique et sociale sur lesquels s'applique la progression des technologies d'information. Depuis l'invention de l'ordinateur il y a plus de 50 ans, les technologies d'information se sont en effet organisées sur le modèle de la tornade. Un mouvement de spirale intégrateur de plus en plus rapide assure la convergence des différentes technologies autour d'un même standard numérique, informatique, télécommunications, audiovisuelles, robotique, bureautique, etc. En même temps, la tornade progresse et son centre de gravité se déplace. Avant-hier, le centre de gravité, c'était l'usine, le monde de la production. Hier, c'était le bureau et les processus de gestion des entreprises. Aujourd'hui, le centre de gravité de la tornade, à l'ère d'Internet, c'est l'univers de l'échange dans ses différentes dimensions marchandes et non marchandes. À chaque étape, l'analyse devient de plus en plus compliquée. Même s'il s'agissait de technologies nouvelles, on avait le sentiment de raisonner et de savoir raisonner tant qu'on était dans l'univers de la production et de l'échange, de l'usine, lieu de naissance de l'économie moderne et lieu de référence de tant de travaux sociologiques. Avec les bureaux et la gestion, ça devenait plus compliqué. Avec l'univers de l'échange, on entre dans des terres beaucoup moins connues, où il existe des grandes zones impensées, des gouffres et des déserts, où l'on approche des mécanismes de la dépense et de ce que Bataille appelait la part maudite de l'économie politique. Le premier intérêt de cette notion de nouvelle économie est précisément là. Malgré l'imprécision du terme, il s'agit d'un projet ambitieux, penser l'incidence des technologies d'information sur l'économie au moment même où leur impact se centre sur l'univers de l'échange. Certes, la lecture quotidienne des journaux nous habitue à une conception beaucoup plus banale de ce que recouvrirait le terme « nouvelle économie ». Ce serait un secteur, une autre façon de parler de la « high-tech ». Vous avez, par exemple, l'expression que l'on trouve souvent dans les médias boursiers, TMT, secteur de télécommunications, médias, technologies. Alors, faut-il considérer, se demandent quelquefois ces commentaires, l'ensemble d'une même façon, ou faut-il réserver un sort particulier aux pure players, aux acteurs spécialisés dans les activités Internet ? Nous reviendrons sur ces questions, mais affirmons-le d'entrée de jeu, le débat sur la nouvelle économie, ce n'est pas cela, cela n'a jamais été cela. À l'opposé d'une vision sectorielle opposant secteur de la nouvelle et de l'ancienne économie, il s'agit d'une interrogation sur les transformations en profondeur qui affectent de manière transversale toute la structure économique. Il peut d'ailleurs paraître étrange que la grille de lecture soit à ce point économique. Il y a 20 ans, lorsque l'on parlait de transformation dans l'univers de la production, on se référait souvent à une expression qui était « société de l'information ». Aujourd'hui, où le centre de gravité des changements technologiques concerne l'échange avec toutes leurs dimensions sociales, culturelles, politiques, on veut parler de nouvelle économie. Pourquoi ? Pourquoi y a-t-il ce réductionnisme ? De fait, une région du monde, comme la Silicon Valley, par exemple, centre de gravité de la tornade, si on veut, fait apparaître des réalités sociologiques de plus en plus contrastées et il serait bien sûr tout à fait inacceptable de les laisser hors champ. L'accélération des inégalités fait partie de ces réalités. Vous le savez, les riches sont de plus en plus riches dans la Silicon Valley. On y dénombre, paraît-il, des dizaines de milliers de millionnaires en dollars. D'un autre côté, ce n'est pas exactement que le fait que les pauvres soient de plus en plus pauvres. Il semble que ce deuxième mouvement soit par ailleurs stabilisé, il a été vrai, mais au cours des 5 dernières années sur l'ensemble des États-Unis. Le phénomène, c'est plutôt que les salariés classiques, et notamment les salariés des institutions publiques, professeurs d'université, instituteurs, pompiers, policiers, ont de plus en plus de mal à vivre dans cette Silicon Valley. Souvent, ils n'arrivent même plus à se loger, tant les prix de l'immobilier ont flambé avec l'envolée du pouvoir d'achat des riches. Tout ceci crée bien sûr des situations décousues, tendues, préoccupantes. Pour autant, il ne semble pas qu'il soit aujourd'hui possible de globaliser et de privilégier à grande échelle des clés de lecture sociologiques. Les travaux prospectifs, comme ceux de Daniel Bell ou d'Alain Touraine sur la société post-industrielle, avaient été des phares qui avaient puissamment éclairé l'avenir et qui, rétrospectivement, se révèlent très justes. Il faut cependant se méfier de vouloir faire dire trop tôt à la société ce qu'elle ne peut pas encore incarner. On a ainsi longuement glosé en Europe, notamment, sur l'expression « société d'information ». Mais qui la connaît, qui l'a vue, qui parle pour elle ? C'est très difficile de parler de société avant qu'une société existe réellement. D'une certaine manière, l'expression américaine de nouvelle économie paraît plus appropriée et sans doute plus saine. On peut comprendre qu'elle énerve par son côté trop facile. Elle est de surcroît à manipuler certainement avec précaution, car beaucoup d'intérêts industriels ou financiers en ont fait la promotion pour toutes les raisons que vous pouvez imaginer. De même, le pouvoir politique américain a peut-être participé d'un certain cynisme en récupérant une expression porteuse. Mais ce qui importe, ce n'est pas cela. Ce qui compte, c'est qu'aux États-Unis, de nombreux esprits s'attachent à comprendre quelque chose de réel et qui n'est pas facile à penser. Après de 10 ans, près de 10 ans, de croissance et de prospérité ininterrompue, les économistes s'interrogent. D'où vient cette croissance ? N'y a-t-il pas un lien avec le fort développement des technologies ? Pourquoi dure-t-elle ? Assiste-t-on à l'allongement des cycles économiques, voire à leur disparition ? La structure économique n'est-elle pas en train de changer de logique, comme cela a été le cas lors de la bascule qu'a été la révolution industrielle ? Autour de tout cela, il n'y a pas de certitude, il y a du travail, il y a des questions, il y a des oppositions. Un signe du doute qui habite les différentes parties prenantes du débat sur la nouvelle économie, c'est qu'il travaille sur des contradictions ou sur des paradoxes. Appliquant une vision d'ingénieur à la compréhension de l'économie, les commentateurs de la révolution de l'information s'en étaient autrefois longtemps tenus à se référer à des lois. Chacun cherchait, je ne sais pas si certains d'entre vous ont lu des textes de ce genre, à formuler une loi qui aurait borné un angle du nouveau paysage. Toute une littérature sur les technologies d'information s'en tient ainsi à deux grandes lois qui structureraient le nouveau paysage économique. La première, la loi de Moore, décrit la progression exponentielle de la puissance des composants électroniques. Tous les 18 mois, énonce cette loi, on assiste à un doublement du rapport performance-prix des composants. Formulée dès les années 60, cette loi s'est révélée vraie et il s'en déduit, bien évidemment, tout un ensemble de conséquences sur la rapidité des progrès de la technologie, sur l'accessibilité croissante de leur appropriation, sur la sophistication sans limite des logiciels et des systèmes de grande diffusion. On dit que la loi restera frais jusque vers 2010, ce qui est tout de même assez remarquable comme type de prévision pendant un demi-siècle. L'autre loi qui balise nombre de réflexions prospectives est la loi de Metcalfe. Cette loi exprime le fait que l'activité d'un réseau maillé, comme Internet par exemple, progresse comme le carré du nombre des personnes qui y sont reliées. La loi de Moore et la loi de Metcalfe sont au cœur de l'expansion rapide de l'économie Internet. Avec cette façon de raisonner, on est néanmoins dans une sorte de préhistoire du débat économique sur les technologies d'information. Il s'agit de points de vue d'acteurs de la technologie qui réfléchissent sur leur métier. D'ailleurs, Gordon Moore était un des fondateurs d'Intel, le fabricant de composants électroniques. Robert Metcalfe était un des fondateurs de 3Com, une entreprise qui fabrique des modems pour Internet. Ceci n'enlève rien à leur mérite, bien au contraire, ni à l'intérêt de leurs propositions, mais on entre dans un véritable débat économique qu'avec des économistes qui appréhendent Internet et les technologies d'information à partir de concepts et de problématiques issus de l'économie politique elle-même. C'est ce changement qui a lieu avec l'interrogation sur la nouvelle économie. Ce sont des économistes qui s'expriment, qu'ils soient universitaires, chercheurs, éditorialistes, responsables de banques centrales. Les perspectives théoriques s'étoffent, les raisonnements font l'aller-retour entre des faits et des connaissances. Signe manifeste de ce changement, on ne s'exprime plus sous forme de loi, mais sous forme de paradoxe. Prenant enfin la technologie, enfin, comme objet central de leurs travaux, les économistes traduisent le fait qu'ils en sont encore au stade des interrogations et de la construction des objets théoriques. On peut rassembler les questions autour de trois grands débats, autour de trois grands paradoxes. Le paradoxe de Solow, le paradoxe du Nehru, le paradoxe boursier. Le premier paradoxe, le paradoxe de Solow, joue un rôle central. Il est contenu dans le constat que Robert Solow, prix Nobel d'économie, avait fait en 1987. Des ordinateurs, écrivait-il, on en voit partout, sauf dans les statistiques de productivité de la comptabilité nationale. Travaillant sur un rapport relatif à l'incidence de la technologie sur la productivité et sur l'emploi, Solow notait le fort décalage entre les performances techniques toujours croissantes d'ordinateurs toujours plus nombreux et une progression annuelle de la productivité américaine qui avait fortement chuté. Les chiffres sont un peu plus de 2,5%, 2,6% en moyenne de 1950 à 1972 et 1,1% en moyenne aux États-Unis de 1972 à 1995. De nombreux blocages expliquaient ce phénomène. Freins sociologiques, crainte pour l'emploi, contraintes réglementaires, monopoles diverses, comportements professionnels, des nombreux corporatismes. Une étude qui avait été menée en France à la fin des années 70 illustre excellemment ce qu'était le paradoxe de Solow. Conduite par un garçon qui s'appelle Claude Salzmann pour la Cegos, cette étude portait sur l'informatisation des fonctions comptables dans les grandes entreprises et faisait apparaître que plus une entreprise informatisait sa comptabilité, plus elle employait de comptables. Le groupe professionnel des comptables occupait en effet une position sociologique telle qu'il pouvait obtenir que les gains de performance résultant de la technologie soient consacrés non à des suppressions d'emplois et de la productivité, mais à une sophistication d'état comptable, générant à leur tour des créations d'emplois pour traiter, interpréter, déchiffrer ces états comptables. C'est cette situation dont l'économie américaine semble être sortie, avec des croissances fortes de la productivité horaire du travail depuis 1996, de l'ordre de 2,5 à 3% par an. Il s'agit là d'un point clé pour l'appréciation d'une nouvelle économie, mais ce n'est pas un point certain. Dans une interview récente au journal Le Monde, Robert Solow lui-même exprimait ses doutes. Il est naturel de suspecter que cette accélération de la croissance de la productivité soit la conséquence tant espérée et attendue des technologies d'information en général, des ordinateurs, d'Internet, etc. Je pense, dit Solow, que c'est probablement exact. Il est tout à fait possible que ce soit la fin du paradoxe des ordinateurs, mais je n'en suis pas sûr. Les chiffres sont frappants et l'explication théorique paraît pourtant claire. Dès lors que la technologie n'est pas seulement une machine à productivité, mais qu'elle pénètre l'échange et qu'elle contribue à ouvrir de nouveaux débouchés, beaucoup de blocages disparaissent qui empêchaient l'extériorisation des gains de productivité. Il s'agirait d'un phénomène comparable à ce qu'a connu la révolution industrielle lorsque la technologie a quitté le monde des machines à vapeur, des métiers à tisser, pour les mêmes principes donner naissance aux locomotives et aux chemins de fer qui ont décloisonné les marchés et élargi les débouchés de l'économie. Pourquoi ce doute alors sur les gains de productivité? Il y a à cela deux grandes raisons. D'abord, les gains de productivité semblent avant tout tirés par le secteur des technologies d'information lui-même plutôt que par les autres secteurs de l'économie. Dans un article récent, Michel Didier, il l'a sans doute cité dans sa conférence dans le cadre de cette université, a souligné cela en citant des travaux américains, d'ailleurs, qui sont partiellement contradictoires. Les travaux de Robert Gordon, tout d'abord, qui font apparaître des gains de productivité de 41,7% par an, de 1995 à 1999, dans le secteur même des technologies d'information, contre 2,2% dans l'ensemble de l'économie et seulement 1,5% dans les services. Et puis les travaux de Kevin Stiro, par ailleurs, qui admet un accroissement de la productivité du travail dans ces secteurs qui utilisent les technologies, mais avec un freinage de la productivité globale du travail, car pour faire de la productivité, il faut employer de plus en plus de capital et de plus en plus de technologies. L'autre facteur de doute, c'est le fait que tous ces travaux sur la productivité sont fondés sur un appareillage statistique qui paraît de moins en moins adapté à la mesure d'une économie où l'on produit de moins en moins de biens matériels. C'est d'ailleurs la révision de l'outil de comptabilité nationale américain qui est largement à l'origine de ce que l'on mesure lorsque l'on parle d'une accélération de la croissance aux États-Unis. Mais d'où cela vient-il ? Uniquement du fait que l'on a appris à mieux distinguer l'effet prix et l'effet volume dans les statistiques relatives au secteur des technologies d'information, cette seule correction a apporté plus d'un point à la croissance du PIB américain. La correction était-elle surestimée ? Il n'y a plus de débat sur la nouvelle économie. Était-elle insuffisante et aurait-on aussi dû changer les modes de mesure de la productivité dans d'autres secteurs ? Le débat sur la nouvelle économie se déplace et devient d'un seul coup beaucoup plus transversal. Quoi qu'il en soit, ces questions d'arbitrage entre prix et volume sont essentielles et elles renvoient à une interrogation générale sur ce qu'est un système de valeur et sur ce qu'est un système de prix dans une économie de plus en plus immatérielle. C'est ce qu'exprime le débat autour du second paradoxe de la nouvelle économie, le paradoxe du Nehru. Nehru veut dire « non-accelerated rate of unemployment », littéralement le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation. Le paradoxe, c'est que le chômage américain ait pu passer de 8,5% de la population active à un peu moins de 4% aujourd'hui, 3,9%, sans que l'on observe jusqu'ici de véritable relance de l'inflation. Les économistes disposent d'un instrument, les courbes de Phillips, qui établissent pourtant une corrélation étroite entre chômage et inflation. Lorsque l'emploi progresse, il apparaît un point au-delà duquel des tensions apparaissent sur le marché du travail et où l'on assiste à une remontée des revendications salariales, voire tout simplement à une surenchère entre les entreprises pour attirer les salariés. Il en résulte une poussée progressive de l'inflation. Aux frontières entre économie réelle et économie financière ou monétaire, les courbes de Phillips constituent un outil central pour les économistes classiques. Ce sont ces courbes qui explique que tant de conjoncturistes attendent chaque mois les chiffres du chômage et en tirent ces conclusions qui choquent le sens commun. Un trop bon chiffre de l'emploi, une trop forte baisse de chômage va apparaître comme un signal alarmant. Il peut se traduire par un tour de vis des autorités monétaires et aux États-Unis de la Fed qui vont monter les taux d'intérêt et réduire la liquidité de l'économie. D'une manière ou d'une autre, ceci se traduira sur les marchés financiers par un recul de la bourse. Le débat sur le Nehru est animé ainsi par des réflexions constantes au paradoxe de Solow. Si l'économie est en effet entrée dans une phase d'accélération continue des gains de productivité, alors un haut niveau d'emploi ne débouchera pas mécaniquement sur des tensions inflationnistes. La productivité croissante des facteurs de production engendrera de la valeur ajoutée et non pas une dérive des prix. C'est en cela que l'interrogation sur la nouvelle économie est au cœur des interrogations sur l'abaissement du Nehru. Chacun sait qu'il y a des facteurs exogènes dans lesquels je ne veux pas rentrer sur le non-développement de l'inflation aux États-Unis, une baisse continue du prix des matières premières sur les marchés internationaux pendant une époque et un enchérissement du taux de change du dollar depuis. Mais des personnes importantes aux États-Unis, comme M. Alan Greenspan, c'est-à-dire le patron de la Réserve fédérale américaine, ont su néanmoins jouer habilement avec le paradoxe du Nehru en maintenant une interrogation positive sur le passage à une nouvelle économie qui repousserait la speed limit, la limite de vitesse, où l'économie est menacée par la surchauffe. Cette évocation en demi-teinte sur les changements structurels était sans doute une excellente approche pour développer la confiance en profondeur des acteurs économiques. On est néanmoins surpris dans tout ce débat par une certaine superficialité des arguments évoqués autour de cet enjeu du Nehru. Ce qui s'écrit se réfère à l'hypothèse de la nouvelle économie, mais on n'analyse pas souvent les mécanismes intrinsèques de cette nouvelle croissance non inflationniste. On reste souvent sur sa fin, notamment quant à un facteur sur lequel on va revenir, quant à l'absence de toute réflexion sur la productivité du capital. Les travaux de Stiro, qui sont cités par Michel Didier, montre pourtant que l'on ne peut pas analyser aujourd'hui l'évolution de la productivité du travail sans s'interroger sur la productivité globale des facteurs. Nous reviendrons sur toutes ces questions. Simplement, je voudrais souligner qu'une interrogation sur l'inflation ayant pour incidence la monnaie et la bourse ne devrait pas se passer d'un travail sur la productivité du capital et sur la rotation du capital circulant. Le troisième paradoxe qui est développé dans ce débat sur la nouvelle économie, c'est en effet le paradoxe boursier, c'est-à-dire la manière dont, avant et après le e-crack, le petit crack du mois d'avril sur les valeurs de la nouvelle économie, c'est la manière dont la bourse a distingué les modes de valorisation des entreprises appartenant à ce qu'elle appelle l'ancienne ou la nouvelle économie. Aveuglement, bulle spéculative ou calcul rationnel. Ce paradoxe boursier n'apparaît réellement que durant l'année 99 avec une valorisation hors norme accordée à toutes les entreprises high-tech et plus particulièrement à celles de la galaxie Internet. Cette distorsion dans les critères d'appréciation boursière choque les points de vue les plus traditionnels qui s'identifient plus aisément à l'ancienne économie qu'à la nouvelle. Dans un journal américain qui s'appelle Forbes, qui représente bien ce type de point de vue, David Drayman illustre ce genre de réticence. À la fin de 1999, écrit-il, 400 grandes entreprises Internet avaient une capitalisation boursière de 1 000 milliards de dollars, 27% de la valeur du Dow Jones. Ce groupe réalisait un chiffre d'affaires global de 29 milliards de dollars, soit seulement 2% du chiffre d'affaires du Dow Jones. Plus significatif, ces valeurs Internet vont perdre collectivement 9 milliards de dollars cette année, alors que les valeurs du Dow vont probablement gagner près de 150 milliards de dollars. L'impression est vraiment qu'il y a deux poids, deux mesures et que la valorisation des activités nouvelle économie serait purement spéculative. On peut considérer les choses autrement. Répondant par avance à de tels arguments, Son Masayoshi, qui est le patron de SoftBank, qui est le grand intervenant asiatique dans le domaine d'Internet, s'interrogeait ainsi au début de l'année. Qu'est-ce qui est irrationnel ? Est-ce vraiment que les valeurs Internet soient capitalisées 1 000 milliards de dollars ? Ou est-ce que ce n'est pas que les valeurs de l'informatique traditionnelle continuent d'être valorisées 6 000 milliards de dollars ? Autrement dit, est-ce que les marchés font trop monter les valeurs Internet ? Ou bien est-ce que le vase communicant ne fonctionne pas suffisamment et qu'il devrait plus fortement sanctionner les entreprises mal préparées à cette révolution technologique ? Fondamentalement, le paradoxe boursier est un débat sur la diversification des modes de valorisation des entreprises selon le pronostic que l'on porte sur leur devenir en période de forte mutation. Un aspect essentiel de ce débat, c'est la manière dont on apprécie les chances de l'emporter qu'ont les puissances installées, dans le jargon Internet, on dit souvent les empereurs, face aux nouveaux entrants, on dit souvent les barbares. Il s'agit d'une question particulièrement prisée des cabinets de consultants. Nombre de rapports de grande qualité ont été écrits par les cabinets de consulting stratégique et bien que chacun ait pris soin de se différencier, tous ces rapports ont à peu près la même trame. S'adressant à une clientèle de grandes entreprises, ces rapports disent en substance « Internet est une révolution considérable, c'est une menace mortelle pour votre entreprise avec des hordes de nouveaux concurrents, mais grâce à son organisation, à sa notoriété et à sa marque, votre entreprise saura triompher à la seule condition qu'elle sache mettre en œuvre une stratégie ambitieuse, soutenue de surcroît par de bons consultants. » Le problème, c'est que les marchés financiers ont dit le contraire. Ce qu'ils ont dit, c'est que dans la confrontation entre une entreprise Internet et une entreprise classique, c'est la nouvelle qui gagne. Après le e-crack et les premières faillites d'entreprises de commerce électronique, on peut se demander si c'est si vrai que cela. De fait, il faudrait exclure de l'analyse les secteurs où la révolution Internet est à peine entamée et où les marchés sont encore tout petits. Dans de tels cas, il n'est pas vraiment étonnant que les nouveaux entrants qui se lancent fort et vite se trouvent fragilisés par l'étroitesse du marché, tandis que les entreprises en place ne sont guère ébranlées par le fait de supporter un complément Internet à leurs activités traditionnelles. Il en va tout à fait différemment dans les secteurs où Internet représente déjà des parts de marché importantes. Dans la commercialisation des ordinateurs et des logiciels, dans le brokerage des actions, le courtage des actions, dans la distribution automobile, dans le commerce des loisirs et des titres de transport, le commerce électronique représente déjà aux États-Unis 15, 20 ou 30 % des marchés. Dans tous ces secteurs, les gagnants sont des entreprises qui ont adopté des stratégies novatrices de création de valeur, tandis que les anciens leaders se sont fait distancer. Dans le match entre le challenger Dell et le leader Compaq, c'est Dell qui a su s'imposer sur le marché de la micro-informatique. Dans le courtage des actions, Charles Schwab a connu un succès fulgurant que tente vainement de suivre le puissant Merrill Lynch. Dans le domaine automobile, les moyens colossaux investis par les grands constructeurs comme Ford, General Motors, etc., ne sont pas parvenus jusqu'ici à enrayer la progression d'un nouvel entrant comme Autobaitel. C'est cela qu'ont relevé les marchés financiers et c'est cela qu'ils ont traduit dans l'hiver 99-2000 en creusant l'écart entre la valorisation des entreprises de la nouvelle et de l'ancienne économie. Un exemple frappant est celui de la fusion entre AOL et Time Warner. Il ne s'agit pas là d'une opposition facile entre vieux et nouveaux secteurs, puisque toutes les deux entreprises étaient TMT, comme on dit, télécommunications, médias, technologies. L'une, AOL, avait des savoir-faire simples, l'accès à Internet, et un fonds de commerce, somme toute limité, 21 millions d'abonnés. L'autre, Time Warner, était un géant considérable du monde de la communication, avec des compétences riches, diversifiées, des clientèles multiples, des activités dans le câble, dans la télévision, dans les magazines et dans la presse. Et pourtant, les marchés financiers ont donné les moyens à AOL de racheter Time Warner. Tout s'est passé comme si, prenant acte de l'avis général, selon lequel Internet et les activités traditionnelles de contenu étaient destinées à converger, les marchés financiers s'étaient posé la question de savoir qui est le mieux placé pour piloter cette rencontre. Est-ce que ce sont les activités traditionnelles les plus riches et les plus compétentes, ou est-ce que ce sont celles qui résonnent tout dans l'optique d'Internet? Eh bien, les marchés financiers ont répondu, ce sont les secondes. Et lorsque l'on voit la liste des déboires qu'un groupe comme Time Warner avait connu depuis 10 ans pour essayer d'apprivoiser la technologie et l'interactivité, on peut se demander si les marchés financiers sont aussi irrationnels qu'on le dit parfois. Les débats que nous avons ainsi présentés incitent à penser, à réfléchir sur les trois paradoxes imbriqués de la nouvelle économie, solo, Nehru, bourse. Ils n'offrent pas pour autant une réflexion aboutie sur ce qu'est la nouvelle économie, sur ses ressorts et sur son devenir. C'est la raison pour laquelle il paraît utile de tenter d'aller plus loin et de proposer un cadre d'analyse. Même si l'on ne sait pas encore bien ce qu'est la nouvelle économie, on commence en effet à mieux pouvoir caractériser ce qu'est l'ancienne économie. L'ancienne économie, ce n'est pas l'économie de l'agriculture ou des grands secteurs industriels hérités de la révolution industrielle du XIXe siècle. Ce n'est pas non plus l'économie des secteurs de services traditionnels, banque, assurance, distribution. Tous ces secteurs ont vocation à entrer dans la nouvelle économie. Pour autant, le passage de l'ancienne à la nouvelle économie n'est pas seulement le phénomène de la diffusion transversale des technologies d'information. L'ancienne économie, ce n'est pas l'économie pré-informatisée devenant nouvelle par le seul effet de l'informatisation. La frontière est beaucoup plus précise. Elle correspond à la phase où nous sommes dans le processus de déplacement du centre de la mutation technologique. La nouvelle économie, c'est l'informatisation de l'échange par opposition à une ancienne économie où domine encore le modèle stratégique impliqué par l'informatisation de la production et de la gestion. Dans cette ancienne économie, c'est-à-dire celle des 20 à 30 dernières années, des lois s'étaient imposées avec des critères de gestion normatifs. Immergés dans cette économie-là, nous ne savions plus la voir. Nous n'étions plus conscients de l'épuisement de ce modèle. Ce qu'Internet nous oblige à voir, c'est qu'il y avait de la technologie, mais que ce n'était pas la bonne. Qu'il y avait des nouveautés, mais que l'innovation s'étiolait. Qu'il y avait du tourbillon, mais qu'il n'y avait pas de vitesse, que l'économie dans ses différentes composantes ralentissait. Le modèle qui a dominé pendant des années, c'était le modèle de l'industrie informatique elle-même. La technologie générait des gains de productivité considérables. Je vous ai parlé de la loi de Moore, qui entraînait en effet la division par deux tous les 18 mois du coût des produits. Face à cela, le modèle stratégique dominant était caractérisé par l'affirmation suivante. Si notre vente moyenne est d'un dollar, elle sera toujours d'un dollar à l'avenir. Au lieu de baisser les prix, nous allons sophistiquer les produits et tout faire pour vendre plus de fonctionnalités, mais en aucun cas baisser les prix. Nous continuerons de vendre pour un dollar. IBM avait contribué à forger cette doctrine antidéflationniste et tous les acteurs du monde de l'informatique s'y étaient reconnus. La productivité ne devait pas servir à faire baisser les prix, elle devait venir financer la recherche et l'innovation produit d'une part, la publicité et les actions commerciales d'autre part. Ce modèle s'était répandu dans de nombreux autres secteurs, à la recherche aussi d'une stratégie de protection de la valeur. L'industrie automobile, par exemple, multipliait les accessoires, les combinatoires, les options, mais ne baissait pas les prix. Les télécommunications développaient le trafic des voies et des données, mais en privilégiant des solutions comme la commutation de circuits, permettant de vendre plus de ressources, sur la commutation de paquets, visant à optimiser les ressources, comme le fait le protocole IP, c'est-à-dire précisément Internet. Moyennant quoi, on innovait en France, il y a 20 ans, en vendant du Minitel à 2 francs la minute, alors que la déflagration actuelle d'Internet permet de vendre la minute de communication Paris-New York demain à moins d'un centime la minute. Autour de tout cela, il y avait beaucoup de technologies, beaucoup de fragilisation des chaînes de valeur, donc beaucoup d'investissements dans les marques. Plus qu'aujourd'hui, d'une certaine manière, cet âge de l'informatisation était un âge de l'immatériel. La productivité réduisait chaque année la composante du traitement industriel dans le prix final d'un produit, dans un produit de consommation courante, n'importe quel produit. Il ne représente plus souvent que 15 à 30% de la valeur finale, tout le reste étant des coûts de recherche-développement, de packaging, de logistique, de distribution, de publicité. L'investissement dans la marque était devenu un moyen de protéger la cohésion d'un ensemble hétéroclite d'éléments de valeur. Par là même, ce mouvement favorisait le financement et le développement des médias de communication. L'ancienne économie prenait ainsi des allures d'économie baudruche. Tout gonflait. Avec un flux excessif d'innovation marketing, les stocks pesaient de plus en plus lourd dans l'économie. Nous avons calculé autrefois 30% du PIB de la France tertiarisée, immatérielle, dit-on, des économies de 1995 contre 25% dans la France industrielle de 1950. Avec une absence de baisse des prix malgré la désinflation et avec une conception élitiste des services, la valeur du temps social ne cessait de s'élever 2 francs la minute. On en parlera peut-être dans les questions, tout a été à 2 francs la minute à une époque dans les services. Les actifs tournaient de moins en moins vite et l'on oubliait même dans les théories monétaires le concept de vitesse de circulation de la monnaie au profit de la notion tout autre de vitesse de gonflement de la masse monétaire qui signifie tout à fait autre chose. Contemplant leur culture et leur identité de marque, l'orgueil des entreprises se dilatait. L'acte fondateur de la nouvelle économie, c'est le dégonflement de cette baudruche. On comprend qu'il puisse en résulter une bulle spéculative. Dès lors que la technologie transforme l'échange et que son emploi est aux mains des personnes, il en résulte un renversement complet des chaînes de valeur. Tant que la capacité d'innovation était située en amont, il pouvait être légitime de ne pas restituer les gains de productivité aux consommateurs. Les grandes entreprises pouvaient faire valoir qu'elles agissaient dans le sens de l'intérêt général en captant ces ressources pour financer la recherche et l'innovation. La bascule apparaît avec la conjonction de deux phénomènes. D'une part, la capacité imaginative de l'amont technique s'épuise et dans les stratégies de l'ancienne économie, les gains de productivité financent de moins en moins souvent le progrès et de plus en plus souvent la préservation de parts de marché. D'autre part, la technologie aux mains des personnes révèle un immense besoin d'innovation dans l'adaptation des produits et des services à la diversité des modes de vie. Coincé par des emplois du temps casse-tête, il y a une forte demande de services gains de temps, vous le savez, et notamment de la part des femmes qui travaillent et qui entendent faire carrière. C'est souvent sur elles que s'appuient des firmes innovantes comme AutoByTel, par exemple, que je citais tout à l'heure, qui a bouleversé le mode de commercialisation des voitures en inventant les appels d'offres personnalisés sur Internet et en asseyant son succès sur le slogan « Auto Baitel » ou le moyen de lutter contre la souffrance d'acheter une automobile. Toutes les grandes réussites du commerce électronique sont le fruit d'une grande audace marketing. Les nouveaux intermédiaires inventent une valeur ajoutée par une proximité étroite avec le client final. Ils construisent un business model et un principe de rentabilité qui est fondé sur de véritables avantages compétitifs et sur le siphonnage des poches de rétention de la productivité. En inventant la commercialisation d'ordinateurs personnalisés produits à la commande et livrés en 8 jours, Dell a inventé un modèle de distribution à très forte rotation des stocks. C'est comme ça qu'il est devenu le premier fabricant de micro-ordinateurs au monde. À son bilan, Dell n'a que 5 jours de stock contre 10 fois plus pour ses concurrents. C'est la base de la performance de son modèle d'attaque du marché. L'accélération de la rotation des actifs, conjuguée à cette innovation marketing liée à la proximité client, sont à la base de la nouvelle économie. Dès lors que la compétition se réorganise selon ces principes sur tous les marchés, il est guère étonnant que l'on sorte de ce que l'on appelait tout à l'heure le solo paradoxe. On extériorise d'un seul coup dans l'économie les gains de productivité que l'on avait pris pour règle de stocker pendant plusieurs décennies. Ceci explique également que l'on assiste au paradoxe du nez et roue. Dès lors qu'apparaît une forte rentabilité du capital circulant, d'autres modèles peuvent en effet s'imposer dans l'univers de l'échange que ceux fondés sur une forte productivité du travail. Je vais vous prendre un exemple. Dans le commerce, non pas sur Internet, mais en magasin, mais très informatisé aux États-Unis, l'entreprise qui s'appelle Walmart, qui a fortement investi dans les technologies d'information et qui a inventé sur cette base un modèle innovateur, le modèle qui s'appelle « Everyday Low Price », des prix bas tous les jours, qui consiste à limiter les à-coups promotionnels, à utiliser l'informatique pour accélérer la rotation des stocks et la productivité du capital circulant, et à investir ses gains amont dans le service aval afin de mieux servir la clientèle, de mieux la comprendre et de la fidéliser. Résultat que j'ai étudié par ailleurs, un superstore Walmart moyen, un magasin qui ressemble un peu à un hypermarché, si vous voulez, emploie 450 personnes pour faire un chiffre d'affaires de 420 millions de francs, contre 280 personnes pour le même chiffre d'affaires dans un hypermarché français. Mais alors que les stocks tournent 10 fois et demi dans un hypermarché français, ils tournent 25 fois dans un superstore Walmart. En termes macroéconomiques, ce cas, le cas Walmart, est l'illustration exacte du phénomène que constitue l'abaissement du nez et roue. Walmart démontre en effet que l'on peut pratiquer des prix bas tous les jours, tout en créant des emplois, en jouant sur cette variable qu'est l'accélération de la rotation du capital circulant. Moins d'un an après son arrivée en Angleterre, on le verra très prochainement en France, Walmart a provoqué un traumatisme en annonçant simultanément une baisse de 15% des prix et la création de 25 000 emplois avec l'élévation du niveau de service. La proposition était tellement stupéfiante par rapport aux normes d'une ancienne économie où l'on opposait sans cesse prix et service que tous les concurrents sont obligés peu ou peu de se suivre. Tesco, le leader anglais, a lui aussi annoncé une baisse des prix, la création d'une filiale Internet, 20 000 créations d'emplois. Nul doute qu'en Grande-Bretagne, on assiste à un affaissement du nez et roue, du taux de chômage qui ne relance pas l'inflation. Si l'on prolonge ces transformations, on conçoit que la nouvelle économie est encore loin d'avoir donné sa pleine mesure. De nombreux secteurs du commerce traditionnel continuent de fonctionner avec deux ou trois rotations de stocks par an. Dans la comparaison d'un hypermarché français à un superstore Walmart, on a vu que l'informatisation d'un magasin peut faire monter la rotation de 10 à 25 fois par an. Dans le cas de Dell et du commerce électronique, on a cité un modèle avec moins de 7 jours de stock, plus de 50 rotations par an. Dans la commercialisation des services ou des biens immatériels, la rotation peut atteindre l'infini. Le cas d'un produit informationnel, un logiciel, un air de musique, etc. Il a souvent été commenté par les économistes que dans ce cas-là, on est sur un modèle où la traditionnelle courbe de baisse progressive des prix en fonction des volumes de production disparaît au profit d'un graphique plus brutal en forme d'équerre. Le coût du premier exemplaire, du prototype, est très élevé. Le coût des exemplaires suivants est quasi nul, puisqu'il n'y a plus de coûts de production, de transport ou de distribution. Il y a seulement des coûts de reproduction et des coûts d'accès par le réseau. Étant lui-même un bien informationnel, celui-ci, le réseau, est un bien dont l'usage est quasi gratuit, même si sa mise en place est un investissement très lourd. Considérés hier comme des cas singuliers et paradoxaux, ces exemples deviennent le cœur même de l'économie, de la nouvelle économie. Il en résulte de nouvelles tensions, de nouveaux principes de création de valeur. Dans l'économie de demain, des tensions très fortes sont à prévoir entre la logique des infrastructures et des investissements en capital fixe et la logique de l'intermédiation et de l'accès aux clients. Une meilleure productivité du capital circulant sera de plus en plus le moyen de gérer ces tensions, et c'est peut-être là que le changement est d'ores et déjà le plus spectaculaire. Avec l'ancienne économie, si on revient deux secondes pour terminer sur le paradoxe boursier, la bourse s'était habituée à un discours sur la création de valeur pour l'actionnaire, la shareholder value, comme on disait dans les milieux financiers, dont le fondement était in fine la productivité du seul facteur travail, le re-engineering, les licenciements et le chômage. Les marchés financiers avaient bien noté dans les années 80 que l'économie n'extériorisait pas pleinement ses gains de productivité. À partir de 1990, on s'intéresse aux restructurations et au business process re-engineering, tandis que des chercheurs notent la proximité entre les dates des plans de licenciement et les dates des assemblées générales, avec l'objectif visible de doper le cours de bourse des grands groupes. Dans l'horreur économique, Vivian Forrester a pris un grand soin de systématiser ses idées en soulignant la forte corrélation entre création de valeur et plans sociaux. Le véritable paradoxe boursier, c'est que ceci ne fonctionne plus. À l'heure d'Internet et de la nouvelle économie, d'autres principes de création de valeur sont reconnus par les marchés. Et ce qui a été frappant depuis un an environ, c'est le désarroi de certains grands groupes multinationaux complètement pris à revers par ce brusque changement des règles du jeu. Constatant la mauvaise tenue de leurs cours et des multiples boursiers très pénalisants, ils enragent de voir le marché les valoriser à 20, 15 ou même 10 fois leurs résultats, alors que les indices moyens des valeurs technologiques sont de l'ordre de 50. Plusieurs d'entre eux ont annoncé des nouveaux plans de compression d'effectifs, pour citer que quelques cas de l'année 2000 et en se limitant à des stars de ce qui est déjà l'ancienne économie, Coca-Cola, Unilever, Procter & Gamble, British Airways. De manière spectaculaire, deux grandes banques allemandes, Deutsche Bank et Dresdner Bank, ont annoncé en même temps leur fusion et 16 000 suppressions d'emplois. Dans ce dernier cas, le projet a été abandonné, mais dans tous ces exemples, ce fut des coups d'épée dans l'eau. Aucune de ces annonces ne s'est traduite par un véritable effet booster sur le cours de bourse. D'où parfois un certain désarroi. Comment se fait-il? Nous faisons tout bien. Nous sommes dans la logique de la globalisation et du marché mondial. Nous nous concentrons et nous fusionnons. Nous sommes obsédés par la création de valeur pour l'actionnaire. Nous comprimons et nous rationalisons. Et notre cours de bourse ne bouge pas. Que faut-il donc faire? Comme souvent, les marchés sont passés d'un extrême à un autre. Ça ne veut pas dire que dans l'économie de demain, il ne faudra plus faire de résultats ou plus faire de profits, et que seul existerait l'impératif de créativité que représentent les start-up. L'engouement a sans doute pendant un temps été excessif, d'autant plus qu'il n'est pas porté uniquement sur les entreprises Internet qui reposaient sur des business models solides. Beaucoup de start-up fondées sur une idée plus ou moins aboutie ont profité de la manne. Une bulle boursière qui a gonflé de projets Internet promus par des entreprises qui n'avaient pas toujours bien réfléchi. La correction qui a eu lieu a été inévitable. Nécessairement, les marchés sont tels qu'il y en aura d'autres. Malgré tout, et je terminerai sur ce point, quelque chose de neuf est en train d'apparaître. La nouvelle économie n'est pas née de la bourse et son destin dépasse les courbes du Nasdaq. Il faut espérer qu'une génération de jeunes entrepreneurs ne sortira pas trop meurtrie de ces brusques traversées par des montagnes russes. Ce qui compte, c'est que les économies occidentales dégagent à nouveau des capacités de croissance. Les stratégies d'entreprise se donnent d'autres projets qu'une conception étroite de la rationalisation. Les marchés valorisent enfin autre chose que la productivité spectacle. La rotation du capital est redevenue majeure. La technologie transforme l'échange et l'heure est à la créativité et à la recherche de nouvelles sources de richesses dans l'économie. La question qui est posée, c'est vraiment de savoir s'il n'est pas temps, en France et en Europe, de faire progresser cette interrogation commencée aux États-Unis sur la manière de reconnaître, de décrire et de conforter le déploiement de cette nouvelle économie encore pleine de mystères et de promesses.
Alors, question.
Bonjour monsieur, excusez-moi, je m'interroge beaucoup. Je voulais savoir si on pouvait assimiler les rapports sur la question des gains de productivité avec la capacité de la bourse pour révéler la croissance non inflationniste. Est-ce que vous voyez aussi s'il y a ou pas d'autres moyens de révéler, de faire une croissance non inflationniste ? Merci.
Par rapport à cette question, oui, il y a bien sûr d'autres moyens. Il s'agit finalement, dans ce débat sur la nouvelle économie, entre les économistes américains qui se répondent les uns les autres, d'article en article, de travaux en travaux, de commentaires sur trois choses qui sont très nettement emmêlées. Ce débat sur la productivité, qui est une chose, et qui est très lié au problème de l'évolution des instruments statistiques, parce que, si vous voulez, le fait que l'on puisse avoir des secteurs qui jouent un grand poids dans l'économie américaine, comme les technologies d'information elles-mêmes, qui représentent quelque chose de majeur, les plus grandes entreprises américaines sont aujourd'hui dans ces secteurs, mais qui sont des secteurs dans lesquels, comme je le disais, techniquement, on a tous les 18 mois un doublement du rapport performance-prix. Donc selon que l'on mesure la productivité avec un arbitrage entre prix et volume de telle ou telle sorte, on ne voit pas les gains de productivité, ou bien on constate, comme on l'a fait récemment, 42% de gains de productivité par an, ce qui est énorme. C'est une première chose. Une deuxième chose, c'est le débat qui est sur le fait de savoir si on peut avoir une croissance qui atteigne une certaine vitesse, qui abaisse le niveau de chômage sans relancer l'inflation. Et ce problème-là est très lié aussi, du point de vue des instruments de mesure, au problème du partage entre prix et volume. Ces deux questions très proches. Et la bourse est là plutôt pour essayer de voir comment les indicateurs fonctionnent avec cette variable qui est très importante pour les boursiers, qui est de savoir comment évoluent les taux d'intérêt. Parce que si les taux d'intérêt montent d'une manière ou d'une autre, la bourse baisse. Il y a un phénomène de vase communicant. Donc la bourse est plutôt là en amplificateur des phénomènes qu'en étant leur source. La bourse n'est pas au centre des phénomènes qui existent. Ce qui est au centre, c'est une évolution dans les façons de produire et avec une difficulté des appareils statistiques et une difficulté des systèmes de concepts que l'économie peut appliquer pour mesurer les phénomènes économiques qui s'appliquent pas uniquement à de la production, mais qui s'appliquent au changement dans la nature des produits, aux débouchés, à la façon d'échanger, à la façon de commercer.
Oui, je raisonne peut-être mal, mais je me pose une question. Quels sont les leviers d'accroissement de la rotation du capital dans des industries qui tournent autour de process lourds, comme dans la sidérurgie ou les télécommunications ou même l'automobile ?
Alors, je vais prendre l'exemple des télécommunications pour prendre un exemple dans ce que vous avez indiqué. Moi, quand j'étais chercheur à l'INRIA, puisqu'on a cité cet exemple, le monde de la recherche en informatique connaissait parfaitement les recherches qui avaient été développées aux États-Unis par l'ARPA, c'est-à-dire l'organisme de financement de la recherche militaire américain, et qui ont débouché sur le réseau ARPANET, qui est devenu Internet. Et le monde de la recherche avait promu un projet qui s'appelait le projet Cyclades, dans le cadre de la recherche en informatique, et qui était un projet de réseau, et qui a voulu le faire déboucher en France également. Ce projet était exactement l'esprit d'Internet. Donc on va prendre cet exemple. Le système de décision qui existait à l'époque entre l'industrie et la puissante administration qui était l'administration des télécommunications n'a pas voulu des principes technologiques qui étaient dans ce projet et qui s'appelaient de la commutation de paquets, pour favoriser un autre modèle technologique qui s'appelait la commutation de circuits et qui a débouché sur le réseau Transpac et sur le Minitel. Alors, quelle est la différence entre les deux, pour essayer de faire comprendre le lien entre technologie, système de décision et la question que vous soulevez. Dans la commutation de circuits, on donne à deux personnes, un émetteur et un récepteur qui se parlent sur un réseau de communication, l'exclusivité d'un circuit de communication qui va les unir, comme si on leur donnait une ligne entre deux, ou plus exactement, un ajustement entre différents segments de lignes de communication qui vont mener de l'un à l'autre. Quand ils se parlent au téléphone, quand ils communiquent ensemble, quand ils consultent le Minitel, même quand il y a des blancs, ils ont cela. Ça, c'est un modèle qu'adoraient les ingénieurs des télécoms. Parce qu'ils avaient beau dire « nous sommes tous sauf des vendeurs de tuyaux », en fait, c'était bien de vendre des tuyaux. Et donc, c'est un modèle qui maximisait le fait de vendre de la bande passante. Le modèle sur lequel repose Internet, pour prendre cet exemple, de commutation de paquets que la recherche voulait faire passer à l'époque de la France des années 77-78, c'est un modèle dans lequel il y a beaucoup d'informatique qui tend à concentrer les messages pour faire passer les messages de plusieurs personnes qui utilisent des réseaux de télécommunications sur les mêmes voies. Quand vous utilisez Internet, ce que vous envoyez est découpé en petits paquets. Ce qu'envoie votre voisin est découpé aussi en petits paquets, et ces petits paquets sont injectés dans les réseaux de télécommunications, et ils suivent chacun un chemin optimisé avec à l'autre bout de l'informatique qui permet de faire que les paquets sont arrivés au bon destinataire et que l'on a reconstitué les messages en réalignant l'ordre des paquets. C'est ça Internet, si vous voulez, comme principe technologique. C'est donc le fait d'utiliser de la technologie informatique pour optimiser les réseaux de communication. Le monde des télécoms voyait pas trop bien ça. Et donc, on s'est lancé en France dans une technologie qui était le Minitel, qui a eu par ailleurs beaucoup d'avantages, mais qui était une technologie chère, et qu'on a promue, je donnais l'exemple de 2 francs la minute, qu'on a promue chère. D'ailleurs, en France, dans cette époque-là, on avait une vision, ce n'était pas uniquement un problème d'ingénieur de télécommunication, une vision chère du temps social. On pensait que c'était bien que s'il y avait du service, ce soit cher. On dirait un peu les débats qui existaient entre économistes avant la révolution industrielle, où des tas de gens se grattaient la tête en disant... Peut-on être riche et bon marché? Ça semblait impossible. Est-ce que nécessairement, si on est bon marché, on n'est pas conduit à être pauvre et on n'avait pas l'idée tellement d'accroissement des volumes qui peut être lié au fait de rendre les choses pas chères? Et ce débat a marqué vraiment le monde des services de la France de l'époque. Je dis tout à 2 francs la minute parce que je pensais non seulement au Minitel, je pensais non seulement aux outils de communication. Il y a un exemple qui est vraiment délicieux, c'est l'exemple de la restauration. Où dans la France des années 80, si vous réfléchissez, la restauration était un monde à 2 francs la minute. Quand vous alliez dans un fast-food, vous y restiez un quart d'heure, ça coûtait 30 francs. Quand vous alliez dans une brasserie, une heure, ça coûtait 120 francs. Si vous alliez dans un restaurant un petit peu plus festif, 2 heures, toujours à 2 francs la minute, ça coûtait 240 francs. Autrement dit, le talent d'un cuisinier était là pour justifier le temps que vous passiez, mais dans tous les cas, il était vendu de la même façon. Il y a bien sûr des points qui font exception par rapport à cette belle courbe droite. Mais donc, mentalement, le monde des services lui-même était un monde dans lequel on faisait payer cher le temps. Et lorsque l'on rentre dans un monde dans lequel on fait payer moins cher le temps, on s'oblige à entrer dans un monde dans lequel les choses doivent aller plus vite pour avoir de la technologie qui permet d'offrir plus rapidement des services, par exemple sur les réseaux, dans un exemple comme les télécommunications.
Monsieur.
Oui, vous avez dit, dans votre conférence, vous avez dit qu'il y avait des produits qui marchaient, à savoir le courtage, le courtage boursier, l'automobile, etc. Je voudrais savoir s'il y a quelque chose, et quoi, qu'est-ce qu'il y a de commun entre ces différents produits ?
Si vous établissez un graphique dans lequel, j'aurais dû prévoir tout de même des projections, un graphique dans lequel on place les activités humaines selon une vision assez traditionnelle, dans lequel on commence par les besoins primaires, si on veut, se nourrir, s'habiller, se loger, etc. Puis on va peu à peu vers des besoins de plus en plus sophistiqués. L'utilisation de biens dans le domaine de la Hi-Fi, etc. Puis on va vers se déplacer, les transports, l'informatique, etc. Puis des choses de plus en plus immatérielles, les services, etc. Par rapport à un tel graphique, le commerce traditionnel, s'est organisé en allant depuis les besoins les plus primaires vers les besoins les plus évolués. L'histoire du commerce, l'histoire des magasins, part plutôt la séparation entre les fonctions professionnelles de commerce et les fonctions de production, leur professionnalisation relative, part plutôt des besoins plus primaires pour aller progressivement vers l'autre bout. D'ailleurs, lorsque vous êtes complètement dans le monde des services aujourd'hui, nous ne sommes pas dans des économies qui distinguent clairement les fonctions de production, d'intégration et de distribution des services. Pas encore, c'est en cours. Ça pour le monde réel. Lorsqu'on est dans le monde virtuel, dans le monde sur réseau, on est dans une évolution qui va à rebours, en sens inverse, dans lequel c'est beaucoup plus facile de faire du commerce sur Internet dans les activités de services et le bien immatériel parce qu'il n'y a pas de problème de logistique physique. Par le réseau, vous présentez une offre, vous recevez des commandes et vous délivrez la prestation. Et de surcroît, on paye. Tout se fait sur le réseau. Dès que l'on entre dans un monde dans lequel il y a des produits physiques, cela devient plus compliqué. À mi-chemin, il y a des produits physiques chers, très chers, d'une valeur unitaire chère, comme l'automobile, par exemple, dans lequel il y a la possibilité de gagner beaucoup pour le consommateur dans la comparaison des prix. En gros, un consommateur qui recourt à des moyens aux États-Unis comme ce que je décrivais, Autobaitel, qui est un système assez étonnant dans lequel vous décrivez précisément la voiture que vous voulez acheter sur un micro-ordinateur. Et l'intermédiaire qui est Autobaitel diffuse votre appel d'offres. Monsieur un tel veut une voiture de telle marque, telle couleur, telles options, etc. Il la veut dans tel délai. Et c'est diffusé auprès d'un certain nombre de concessionnaires, 3000 pour Autobaitel, qui vont recevoir l'appel d'offres et y répondre. Et dire, monsieur machin, je suis disponible demain pour vous présenter votre voiture, ou je n'ai pas exactement votre voiture, ils doivent être précis là-dessus parce qu'ils ont un contrôle qualité extrême, et je vous propose une voiture un peu différente. Et ils doivent répondre à chaque fois avec un best price, un bon prix, qui n'est pas le meilleur prix du marché, parce que ce n'est pas un système de compétition absolue, c'est, disons, le prix que négocie, vous voyez, la clientèle est beaucoup une clientèle executive woman, femme occupée, et on permet en gros d'obtenir directement le prix qu'un macho spécialiste de l'automobile va obtenir au bout d'un quart d'heure de négociation dure avec le concessionnaire. D'entrée de jeu, il faut donner ce prix-là, c'est en gros ce qui est demandé au concessionnaire. Ça fonctionne comme ça, c'est un engouement considérable. Avant qu'il y ait les mêmes tailles de marché dans des domaines comme la mode, par exemple, puisqu'on a parlé récemment de la faillite d'une entreprise de commerce électronique qui s'appelle Boo.com, qui avait tout bien dans le domaine de la mode, des très beaux graphismes, des super marques, des choses parfaites, il se passera du chemin parce qu'on n'est pas du tout sur les mêmes tailles de marché. Je vais vous donner une indication, simplement pour vous donner des indications de volume, avec la méthode qu'utilise Autobaitel, l'exemple que je prenais. Autobaitel tout seul, sur le dernier trimestre 99, a fait commercialiser aux États-Unis 450 000 automobiles neuves. Il a des concurrents, par ailleurs, qui s'appellent CarPoint, qui s'appellent AutoWeb, etc. Donc, ils sont plusieurs opérateurs. Lui, il s'agit d'une entreprise. 450 000 voitures, je ne sais pas si vous représentez, la voiture américaine moyenne doit coûter quelque chose comme 17 000 $. Donc, vous multipliez, vous voyez que c'est plusieurs centaines de millions de dollars par mois de chiffre d'affaires. Le plus gros vendeur par Internet de vêtements, pour prendre cet exemple, est un vendeur par correspondance qui s'appelle Lands End, qui a vendu en 99 pour 150 millions de dollars. Donc c'est un rapport de 1 à 15 ou 1 à 20 dans la taille des marchés, si vous voulez. Lorsque le marché est beaucoup plus petit, comme c'est encore le cas aujourd'hui, bon, je dis ça parce qu'on voit tous des affiches dans la rue, bon, il y a une espèce de gens qui se lancent, qui ont des idées absolument super. Moi, je connais plein de gens jeunes qui ont des idées absolument magnifiques et précises, mais il y a bien sûr un excès. Tout le monde, malheureusement, ne peut pas réussir sur la base d'une seule idée. Moi, il y a 15 ans, dans ma génération, lorsqu'il y avait plein de gens jeunes qui avaient l'idée de faire des guides. Dès qu'ils avaient un événement, ils avaient 30 ans, 35 ans, lorsqu'il arrivait un événement dans la vie, ils avaient un gosse, ils avaient un parent à l'hôpital ou autre, ils avaient une idée, c'était de faire un guide et de le faire éditer. Aujourd'hui, ils n'ont plus cette idée-là, ils ont l'idée de faire un site internet, de l'introduire en bourse et de faire fortune. Mais les idées sont à peu près ciblées de la même façon, si vous voulez, comme truc. On ne peut pas forcément réussir avec des idées très minces. Je suis clair, non ? Alors, Amazon, c'est un cas très particulier, Amazon. Je fais exprès de ne pas le citer parce que je trouve que ce n'est pas un cas, un cas représentatif d'autre chose que lui-même. Amazon, c'est une stratégie de vitrine. À partir du moment où la notion de commerce électronique existait, le coup de génie de M. Bezos avec, en ayant créé Amazon, c'était de se dire que tout le monde voudrait essayer sur un bien pas trop cher, standard, clair, où on sait ce que c'est, un livre. Et il a occupé le marché d'être le marché de démonstration de ce qu'est le commerce électronique. Et tout le monde, découvrant ce que c'est qu'Internet et le commerce électronique, a voulu essayer un truc, a essayé un livre et a commandé tous les gens qui s'y sont intéressés chez Amazon, ce qui a fait un marché formidable. Lui, il essaye aujourd'hui de faire, parce qu'il n'y a aucun moyen de rentabiliser cette activité-là. Il a écrasé tous les libraires possibles et imaginables, puisqu'il a offert un choix qu'aucun libraire ne peut offrir, 4 millions de livres, peut-être plus, peut-être 5, je ne sais pas exactement où on en est, alors qu'aucune librairie ne peut offrir cela, mais il ne gagne pas d'argent sur les livres. Il perd à peu près le même montant d'argent chaque année que son chiffre d'affaires. Mais il a choisi un nom Amazon, qui est celui du plus grand fleuve mondial, celui qui charrie le plus de choses, et le but, c'est de faire de cette marque une marque fleuve qui puisse un jour vendre des tas de choses après avoir conquis des tas de clients. Mais c'est très, très particulier.
Monsieur.
Les notions de base faciles à comprendre pour un non-économiste, c'est que pour déterminer une valeur, quelle qu'elle soit, il y a l'amont, il y a l'aval et il y a l'intermédiaire. En amont, on voit le producteur et le créateur. En aval, on voit le consommateur. Et au milieu, finalement, c'est tout le domaine du commerçant. Et les moyens de la nouvelle économie, c'est d'ailleurs ces moyens d'information colossaux, finalement, se basent surtout entre l'amont et l'aval. Et est-ce qu'il ne pourrait pas y avoir intérêt à ce qu'il y ait une communication plus ou moins directe entre l'amont et l'aval, et que les intermédiaires soient plus supprimés, compte tenu précisément qu'il y a des moyens d'information que peuvent avoir les producteurs pour informer l'aval.
L'impact d'Internet sur l'économie se traduira certainement par la disparition de très nombreux intermédiaires. Pour autant, la thèse sur laquelle on peut s'interroger, qui est de savoir est-ce que l'on va vers une économie désintermédiée, dans laquelle il y a des relations directes entre des producteurs et des consommateurs, cette thèse-là ne semble pas se vérifier, parce que le nombre des producteurs mondiaux auquel vous accédez par Internet est tellement considérable qu'il y a un problème de connaissance, de tri, de circulation, de comparaison, de repère, tout simplement, pour savoir qui vous êtes dans cet univers Internet. Aujourd'hui, lorsque vous vous branchez sur Internet et que vous voulez circuler dans l'univers, déjà pour savoir ce qui est réellement non marchand, ce qui est marchand, les communications entre les deux, les liens hypertextes qui permettent de renvoyer des uns les autres, où vous êtes, est-ce que vous êtes, tout est en anglais, est-ce que vous êtes aux États-Unis, est-ce que vous êtes en Angleterre, en Afrique du Sud ou à Pétaouchnak, vous ne savez pas. Il y a une espèce de, bon, il y a bien sûr quelques grands points de repère comme cela. Et donc, il apparaît un besoin considérable d'une autre valeur ajoutée d'intermédiation que la valeur ajoutée d'intermédiation classique descendante, si l'on veut, qui est une valeur ajoutée d'aide aux personnes pour naviguer dans cet univers. Et plutôt qu'une désintermédiation, on assiste à un déplacement de la valeur ajoutée de l'intermédiation, certaines façons d'être intermédiaire qui n'ont plus aucun sens, plus aucune valeur, et d'autres façons d'être intermédiaire qui apportent au contraire de la valeur ajoutée. Et je crois que c'est plutôt cette notion-là dans laquelle, si on prend cet exemple, ce seul exemple que j'ai pris tout à l'heure d'AutoByteL, c'est plus un intermédiaire qui aide les personnes à acheter qu'un intermédiaire qui aide des producteurs à vendre.
On va prendre encore deux questions, madame, et puis monsieur en haut.
Oui.
Allez-y.
Bon, moi, je ne suis pas très douée pour l'économie. J'ai beaucoup de difficultés.
Parlez dans le micro, surtout.
Ah, pardon. Je disais que j'avais des difficultés pour comprendre la science économique, mais qu'il me semblait que dans cette science, il y avait un mauvais couple, c'est-à-dire l'inflation et le chômage. Il me semblait qu'ils étaient... c'est comme un balancier, j'ai l'impression. Alors je me demande, est-ce que l'inflation ne serait pas l'impossibilité pour l'économique à assurer le progrès et la répartition pour tous les hommes en même temps? Il semblerait qu'il faut toujours qu'il y ait l'exclusion d'une marge, qui serait donc le volet de chômeurs. Est-ce que j'ai compris ou est-ce que j'ai mal compris?
J'ai voulu distinguer en parlant de l'expression même et en la mettant en avant, mais qui est l'expression technique qu'utilisent les économistes. L'expression même de Nehru, de non-accelerated rate of unemployment, non-accelerated inflation rate of unemployment, le taux qui n'accélère pas l'inflation, le taux de chômage qui n'accélère pas l'inflation, dans sa formulation même, a quelque chose de choquant qui inspire votre question. C'est-à-dire le fait de se donner un instrument de mesure qui relierait de près le taux de chômage et cette mesure de l'inflation. C'est une expression assez récente en économie. Les courbes de Phillips, c'est quelque chose de plus ancien. C'est assez récent de mettre l'accent sur cette question. Mais on a mis l'accent à un moment où ça évoluait pas de la façon que l'on attendait. On voyait le chômage diminuer, l'inflation qui ne repartait pas. Et donc, c'était comme si l'instrument classique était un peu déréglé. Alors, qu'est-ce qui était déréglé? C'était le fait qu'on avait pendant longtemps assimilé technologie avec le seul facteur productivité du travail. Pensez à ce qu'aurait été ce débat si on avait parlé de technologie et d'économie à l'époque où on parlait de robotique uniquement, d'impact de la technologie sur l'usine. On aurait parlé chômage, on aurait parlé impact des technologies sur la productivité du travail. Le débat se serait limité là. Mais en économie, la productivité n'a jamais été seulement la productivité du travail. Il y a la productivité du capital fixe, ce qui est investi dans des machines, dans des bâtiments, dans des infrastructures. Il y a la productivité du capital circulant, qui est, je dirais, la vieille loi du commerce. Moi, je travaille dans les Galeries Lafayette, quand on relit Le Bonheur des Dames, de quoi on parle? On parle de la rotation des stocks. C'est comme ça qu'on gagne de l'argent, c'est pas avec des marges. C'est en faisant tourner des stocks. Et bien des économistes ont distingué nettement ce qui avait trait à l'univers de la production et ce qui avait trait à la circulation des biens. Or, la circulation du capital avait considérablement ralenti dans une économie dans laquelle les choses allaient plus lentement. J'ai cité au passage simplement ce travail tout à fait étonnant que Michel Didier connaît bien également, puisque c'est Rex et Code qui avait fait les courbes et qui... me semblait une question extrêmement importante, qui était le fait que là où on attendait que depuis la guerre, la part de l'économie tertiaire s'est considérablement développée. Donc on pourrait s'attendre, quand on regarde les stocks, qui n'est pas une question que les économistes aiment beaucoup, hein, pas une question très noble habituellement, on pourrait s'attendre à ce qu'on ait des stocks qui soient de plus en plus bas, une économie de plus en plus immatérielle, dit-on. Pas du tout, on est dans des économies dans lesquelles les stocks pèsent de plus en plus lourd. Les choses vont plus lentement à certains niveaux. Et ce que les technologies aujourd'hui amènent, Internet ou autre, appliquer à l'univers d'échange, c'est de réaccélérer ça. Et ça réinjecte quelque chose qui oppose moins brutalement le problème de la santé économique et le problème de la productivité du travail. Il y a d'autres facteurs.
Bien. Dernière question, oui, monsieur.
Voilà, je voudrais revenir sur l'exclusivité. Vous parlez des télécoms ou le monopole, n'est-ce pas? Ou bien le Minitel est public, il y a des gens qui disent que ça n'a pas fonctionné à cause de cela, parce que ni l'Allemagne ni les États-Unis n'ont adopté le Minitel. Bon, je peux prendre la question à beaucoup plus long terme. Le CEA s'est séparé, il y a l'EDF, l'exploitation de la formation de l'électricité, et les scientifiques qui sont le CEA. Le CEA actuellement, il va de plus en plus à 75% à l'étude du cancer, de la médecine, du service de santé nouveau, sans hôpitaux, etc., comme M. Jouven nous avait expliqué ici. Relations malades, etc. Donc, tout un ensemble de... Alors, est-ce qu'il faut, voyons, n'est-ce pas ça, à plus longue échelle, est-ce que le secteur, même scientifique, du CEA, ou d'autres analogues, est-ce que ça doit rester public, protégé et mis en main? Il y a un problème politique et géopolitique. Qui décide? Quelle est la force du système décisionnel dans notre démocratie actuelle, n'est-ce pas? Donc c'est un problème politique et à plus long terme, en face de la Chine avec ses 2 milliards, avec le milliard qui ont les instruments de bombes, etc., extrêmement puissantes, beaucoup plus puissantes que les actuelles. Et alors, est-ce que ça rejoint le fait de l'exclusivité? Est-ce qu'il y a moyen d'avoir une exclusivité politique, c'est-à-dire un contrôle, puisqu'on divise les nations actuellement? On recherche là la solution par le fédéralisme, mais les espaces régionaux ne donnent pas plus de décisions quand ils sont fédérés que quand on prend les choses en main soi-même. Comme ici, l'université de tous les jours, c'est une prise en main de l'éducation, de la formation, de la culture générale.
Merci.
Oui, j'ai parfaitement compris votre question. Pour aller vite, c'est le problème des liens entre ce que, dont on parle là, sur la technologie, sur les transformations de l'économie, et la dimension politique qui existe. Et je crois vraiment qu'il faut essayer d'éviter totalement, le plus possible, de faire, quelles que soient les préférences ou les systèmes de pensée dans lesquels nous sommes les uns et les autres, de faire de l'idéologie sur ces questions dont on ne connaît pas encore le terme. Moi, je me méfie énormément des raisonnements qui relient de trop près les raisonnements sur Internet et sur une espèce de progression systématique du libéralisme ou de l'ultralibéralisme. Lorsque des grands acteurs technologiques comme M. Bill Gates disent aux États-Unis qu'il faudrait qu'Internet conduise à un monde sans couture, du point de vue économique, juridique, des systèmes sociaux, etc., je me dis qu'il va bien au-delà de son système de compétences mentales pour annoncer cela. À l'inverse, lorsque... En Europe, nous aimons mettre en avant la notion de société de l'information avec toutes les ambiguïtés que ça comporte, comme si on savait ce que c'était. Je pense qu'on veut beaucoup trop vite socialiser des raisonnements qu'on ne maîtrise pas totalement. Pour le moment, il y a des changements dans les règles du jeu économique. Il faut les regarder. Nécessairement, les gens, selon leurs préférences, leurs opinions, etc., en tireront des conséquences différentes les uns les autres, mais il faut d'abord prendre la mesure des changements. On n'est plus dans le même monde qu'hier. L'ancienne économie dont on parle, ce n'est pas celle du 19e siècle, c'est celle qu'on connaissait encore il y a 10 ans. Eh bien, ça, c'est un changement dont beaucoup de personnes doivent aujourd'hui prendre la mesure.
Merci.